Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à tous, bonsoir et merci d'écouter Aligre FM sur le 93.1. Soyez les bienvenus dans cette édition de version originale. Ce soir, nous parlerons de la collection Récits d'esclaves. Les presses universitaires de Rouen et du Havre publient donc le sixième volume de la collection Récits d'esclaves. Le livre qui complète ce beau projet éditorial, ce sont donc deux récits d'esclaves réunis en un seul volume. Moses Roper et Josiah Henson, deux récits d'esclaves fugitifs. Donc, Moses Roper et Josiah Henson, deux récits d'esclaves fugitifs. Traduction, introduction et notes de Simone Chambon, Michael Roy et Claire Parfait. Je reçois Claire Parfait qui dirige avec Marie-Jeanne Rossignol la collection Récits d'esclaves aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Bonsoir.
Bonsoir et merci de m'accueillir pour pouvoir présenter ce volume, ce sixième volume de la collection.
Ce sixième volume, effectivement. Donc, je rappelle, Claire Parfait, vous êtes professeure émérite à l'université Sorbonne Paris Nord et membre de l'unité de recherche Pléiade. Vous êtes spécialiste d'études africaines-américaines et d'histoire du livre. En particulier, vous vous intéressez à l'écriture de l'histoire par les historiens africains-américains du 19e siècle au début du 20e siècle. Je le disais, donc vous dirigez avec Marie-Jeanne Rossignol la collection Récits d'esclaves aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Dans les années précédentes, j'ai déjà l'occasion donc de parler des autres publications dans cette émission. Avant bien sûr d'entrer donc dans ce sixième ouvrage, j'aimerais donc vous entretenir un peu sur le projet éditorial lui-même. Donc les origines de la collection Récits d'esclaves, donc c'est un projet lancé en 2008 par Anne Vick, professeure de littérature américaine de l'Université de Rouen. Donc dans ce projet, donc vous vous intéressez aux récits d'esclaves américains et pas aux récits d'esclaves des colonies françaises. Expliquez-nous ce choix.
Le choix est extrêmement facile à expliquer. Le récit d'esclaves est quelque chose qui est vraiment typiquement nord-américain, états-unien. Il n'y a pas dans les colonies françaises d'équivalent au récit d'esclaves américain. Lorsque l'on veut retrouver en France la parole de l'esclave, il faut aller la chercher, par exemple, dans les minutes de procès. C'est ce que fait, par exemple, Frédéric Régent, ou ce qu'a fait Caroline Houdin-Bastide ou Dominique Roger. Il n'y a pas, donc, dans les colonies françaises, de récits d'esclaves. Il y a eu diverses explications à ce phénomène. Une des explications, c'est que les esclaves étaient illettrés, que très souvent les maîtres et contre-maîtres étaient illettrés, que certains des maîtres habitaient très loin, donc dans les colonies françaises, alors que les maîtres habitaient en métropole, et que les abolitionnistes, ça c'est une idée qui est assez intéressante, que les abolitionnistes français n'étaient pas très intéressés par le témoignage de l'esclave, contrairement aux abolitionnistes anglais et états-uniens.
Donc ça veut dire que ça existe dans l'espace britannique.
Alors dans l'espace britannique, ça existe, mais on a très très peu d'exemples. On a un exemple d'un récit qui est assez connu, qui est le récit de Mary Prince, qui est paru dans les années 1830. Il y a également un récit d'un certain James Williams, mais c'est plutôt un récit d'apprentissage qu'un récit d'esclave à proprement parler. Donc quand je dis que c'est véritablement un phénomène états-unien, c'est une réalité. Si on va regarder du côté de Cuba, par exemple, on trouve un récit d'esclave. On trouve très peu de récits d'esclaves dans le monde lusophone, au Brésil. Il y a très peu de récits d'esclaves, un ou deux si je me souviens bien. Donc c'est véritablement une réalité états-unienne, c'est-à-dire une réalité qui a à voir avec le protestantisme, le fait qu'il fallait lire la Bible, alors pas forcément pour les esclaves, puisqu'ils n'étaient pas censés apprendre à lire et à écrire, c'était interdit, mais les maîtres savaient lire et écrire, et ça fait déjà une première différence avec, par exemple, les colonies françaises. Le fait aussi que dans l'esclavage états-unien, les maîtres et les esclaves habitent ensemble. C'est-à-dire, ils habitent dans le même espace, même si évidemment, pas dans les mêmes habitations, mais c'est dans le même espace. Et donc, ça fait une situation qui est complètement différente de celle, notamment, des colonies françaises.
Et alors, en fonction de quels critères vous choisissez les récits que vous traduisez donc de l'anglais vers le français? Donc, au bout de 6 volumes parus, comment s'effectue ce choix?
Alors, je pense que je vais revenir ici au début de la collection, donc à Annevik, qui, en 2008, si je me souviens bien, avait lancé sur la messagerie des américanistes un appel aux bonnes volontés pour traduire des récits d'esclaves. Il faut d'abord expliquer qu'il y avait en France... Bon, j'ai expliqué qu'il y avait les abolitionnistes français étaient peu intéressés par la parole de l'esclave. Donc, pendant tout le 19e, on dispose de très peu de traductions de récits d'esclaves en français. Il y a par exemple le récit de Frédéric Douglas. Frédéric Douglas est vraiment l'esclave fugitif le plus connu, la figure intellectuelle la plus connue de l'Amérique du 19e siècle. Son récit, qui a été publié en 1845, c'est un peu le récit canonique, il y en a d'autres, mais c'est le grand récit de l'esclavage aux États-Unis. Et il a été traduit en 1848 en France. Et mon co-auteur, Michael Roy, a expliqué pourquoi ce récit n'avait pas marché du tout. Ce récit a paru juste après la Révolution de 1848, et il n'a pas, donc à un moment où en fait les Français étaient intéressés par autre chose, et finalement il n'a eu aucun retentissement. Il y a eu quelques autres récits. Le récit de Josiah Henson, par exemple, a été traduit dans les années 1870 en France, en français, mais c'est un récit qui n'a rien à voir, on en parlera tout à l'heure éventuellement, avec le récit que nous avons traduit, qui est le premier récit publié le premier récit d'esclaves de Henson, qui date de 1849 et qui est une sorte de récit qui n'est pas romancé. Les chercheurs qui ont travaillé sur les récits ultérieurs ont remarqué que ces récits ultérieurs empruntaient beaucoup au roman sentimental, par exemple. On entendait beaucoup moins la voix de Henson que dans le récit de 1849. Et c'est cette forme un peu romancée du récit, et surtout l'association de Henson avec l'oncle Tom, le personnage éponyme du roman La case de l'oncle Tom de Harriet Beecher Stowe, 1852, qui fait que ça a intéressé les Français, comme d'ailleurs ça avait intéressé les Britanniques avant.
Alors, j'aimerais aussi que vous nous disiez, clair, parfait.
Je m'aperçois que je n'ai pas répondu vraiment à votre question. Si vous voulez, en 2008... Les critères de choix, excusez-moi. En 2008, quand Annevik a proposé, donc, a fait cet appel aux bonnes volontés, Marie-Jeanne Rossignol et moi-même, qui enseignons un cours en commun, travaillons déjà sur un récit qui était celui de William Wells Brown, qui est moins connu que Douglas, mais aussi un personnage très très important de l'époque, parce que c'est donc lui, il avait publié son récit en 1847, mais c'est aussi un des premiers historiens, pas le premier, mais un des premiers historiens africains-américains. C'est le premier à avoir publié un roman, même s'il a publié en Angleterre, le premier à avoir écrit un récit de voyage, à avoir écrit 2 pièces de théâtre. Donc c'est quelqu'un de tout à fait intéressant et qui nous intéressait aussi parce qu'il était moins connu que Douglas. Et que, par exemple, dans son récit, on trouve pas mal de traits d'humour, ce qui n'est pas fréquent, ce qui est assez normal dans ce genre de récit. Donc, donc en fait, c'est parce qu'on travaillait déjà sur cet auteur-là qu'on a décidé de traduire son récit. Ensuite, en réalité, Anne, elle avait fait appel à un certain nombre de gens qui avaient répondu, et les gens ont répondu, ils ont choisi les récits qui les intéressaient le plus. Évidemment, on n'a pas pris des récits qui avaient déjà été traduits. Par exemple, le récit de Solomon Northup, 12 ans d'esclavage, a déjà eu 2 ou 3 traductions.
De le film, d'ailleurs.
Voilà, alors, il a eu 2 autres traductions après le film de 2013, effectivement. Mais vraiment, je pense qu'on peut dire qu'on a essayé de prendre des récits qui n'étaient pas forcément les récits les plus connus et de donner une sorte de perspective sur l'esclavage américain, en sachant que c'est vraiment une poignée de récits qu'on a traduits. On va continuer, bien entendu, la collection. Mais quand on considère que entre la fin du 18e et la fin de la guerre de sécession, donc 1865, il y a un peu plus d'une centaine de récits, il est évidemment hors de question de les traduire tous. Ils ont des intérêts différents d'ailleurs. Donc c'est vraiment une question de goût aussi personnel du traducteur, de la traductrice, et donc qui se charge aussi de faire les notes et l'introduction.
J'aimerais que vous nous disiez également à quelle nécessité pour vous cette démarche répond ici en France. Quel est l'enjeu ? Qu'est-ce qui se joue dans le fait de traduire des récits d'esclaves américains en français ici aujourd'hui ?
D'abord, il s'agit de rendre accessible au public français des récits qui sont peu connus. Et quand je parle de public, on s'adresse en réalité à un public qui est un peu un public double. D'une part, on s'adresse à un public qui peut être intéressé par tout le paratexte savant qu'on offre et qui donne une contextualisation du récit qui explique finalement dans quel cadre il faut situer le récit. Donc on apprend des choses sur l'esclavage aux États-Unis à la période où est produit le récit. Donc ça peut intéresser les étudiants en histoire ou autres, ça peut intéresser les enseignants aussi, ça peut intéresser tous les gens qui sont intéressés par le sujet mais qui n'ont pas forcément les compétences langagières pour comprendre les récits en anglais. Ça peut intéresser aussi un public plus vaste, parce que finalement, ça donne une approche de l'expérience de l'esclavage qu'on ne peut pas avoir ici, dans la mesure où nous n'avons pas ce genre de récit. Même si nous avons donc ces paroles d'esclaves qui apparaissent dans les procès, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, je pense que... Et je devrais dire aussi que, en fait... Il faudrait probablement commencer par là, par la loi Taubira de 2001. Donc la loi Taubira de 2001 qui, comme vous le savez, déclare que la traite et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité et qui encourage à la fois la recherche et l'inscription dans les programmes scolaires sur l'esclavage. Et on sait que plusieurs villes portuaires françaises se sont saisies de cette question. On pense à Bordeaux qui a créé une aile sur l'esclavage en 2009, on pense au mémorial de l'esclavage de Nantes en 2012, Le Havre qui était aussi une importante ville portuaire d'où partaient des navires négriers. Donc la région de Normandie a également s'est saisie de la question et a financé un certain nombre de projets et il faut signaler que les premiers volumes de la collection ont été financés en partie par la région Normandie. Par une UMR de notre collègue Éric Saunier au Havre, qui publie également la revue du philanthrope, qui est aussi extrêmement intéressante sur l'esclavage, les esclavages.
Claire Parfait, avant d'entrer dans le contenu du livre, de ces deux récits d'esclaves fugitifs, j'aimerais que vous nous situiez bien donc, maintenant quand ces récits paraissaient, quand ils étaient donc publiés, à qui s'adressait-il exactement ?
Alors, là aussi, mon co-auteur Michaël Roy a publié un ouvrage tout à fait remarquable qui s'appelle « Texte fugitif », dans lequel il regarde, entre autres, il regarde les circonstances de publication des ouvrages, mais il regarde également à qui ceci s'adressait. Et en fait, ce qu'il remarque, c'est que, dépendant du mode de publication, le public n'était pas tout à fait le même. On peut dire qu'en gros, le public de ces récits, c'était avant tout un public blanc, de classe moyenne, du Nord, pour des raisons assez évidentes. Ça ne veut pas dire que les Noirs libres du Nord ne lisaient pas ces récits. Ça ne veut pas dire non plus que ces récits ne soient pas arrivés d'une manière ou d'une autre à certains blancs du Sud et également à certains esclaves. Il y a quelques cas où des esclaves, ayant entendu les récits lus à voix haute, se sont dit « on s'en va ». Et donc, la lecture d'un récit de fuite a entraîné la fuite de certains esclaves. Mais ça, c'est un petit peu anecdotique. Pourquoi est-ce qu'il s'adressait à ce public du Nord ? Parce que pour le Nord, le Sud est un endroit profondément « exotique », entre guillemets, c'est-à-dire complètement différent. Et les auteurs des récits soulignent que les gens du Nord connaissent très peu de choses sur l'esclavage. C'est une des raisons pour lesquelles ils écrivent les récits, pour véritablement montrer ce qu'est l'esclavage à ces gens du Nord, pour lutter contre l'esclavage. Et évidemment, les gens du Nord, les Blancs du Nord, les Noirs peuvent rarement voter, y compris dans le Nord. Enfin, bien sûr que dans le Sud, c'est hors de question. Mais même dans le Nord, le droit de vote leur est rarement donné. Et donc, en fait, il n'y a que les Blancs qui peuvent véritablement avoir une influence sur la question.
J'aimerais également que vous nous rappeliez qui sont, à l'époque, les abolitionnistes, les anti-esclavagistes.
Alors,
quand je dis à l'époque, on est donc au 19e siècle, première partie du 19e siècle.
Voilà, première partie du 19e siècle. Alors, de tout temps, il y a eu des Africains-Américains et des Blancs. Des Africains-Américains dès le départ. Hein, on les a beaucoup oubliés dans l'historiographie, mais un certain nombre d'ouvrages récents, y compris « Noir et blanc contre l'esclavage » de Marie-Jeanne Rossignol et des ouvrages américains, ont replacé les abolitionnistes noirs au centre de l'image, dont ils ont été très très longtemps écartés. Les abolitionnistes blancs ont eu finalement des buts un peu différents. Ils ont également changé au fil du temps. Si vous voulez, au début, le but principal des abolitionnistes, c'était d'abord d'arrêter la traite. Donc ça a été un but, ça a été obtenu le 1er janvier 1808 aux États-Unis. Le Congrès interdit la traite. Ensuite, ils ont tenté d'obtenir ce qu'on appelle une abolition graduelle de l'esclavage, c'est-à-dire que, comme ce qui s'est passé dans les États du Nord autour de la Révolution américaine, donc dans les années 1770, fin des années 1770, 1780, 1790, les États du Nord, influencés par la Déclaration d'indépendance, tous les hommes sont créés égaux, ont libéré le plus souvent graduellement les esclaves, c'est-à-dire que les esclaves devenaient libres à un certain âge. Et donc, les abolitionnistes ont tenté d'obtenir cette abolition graduelle. Et puis, il y a un changement dans le mouvement vers 1829-1830. Le mouvement devient beaucoup plus radical et le mouvement demande l'abolition immédiate de l'esclavage. Et les deux ouvrages dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des ouvrages qui se situent dans cette phase-là du mouvement abolitionniste, c'est-à-dire un mouvement radical qui veut l'abolition tout de suite.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon-Émile.
En compagnie de Claire Parfait, historienne, donc nous évoquons aujourd'hui donc la parution du livre « Deux récits d'esclaves fugitifs » Robert Hanson dans la collection « Récits d'esclaves » d'édition Presse universitaire de Rouen et du Havre. Donc, entrons un peu dans l'ouvrage Claire Parfait. Ce nouveau livre donc réunit donc deux récits d'esclaves. Hein, donc, je rappelle donc celui de Moses Roper, publié en 1837, comme vous le disiez, et celui de Josiah Hanson, publié en 1849. Alors, le rappel aussi, hein, comme vous l'avez dit, donc pour venir là-dessus, le texte de Roper n'a jamais été traduit en français. Et celui de Hanson a été traduit et publié, comme vous nous rappelez, en 1878 dans une version romancée. Donc, les deux traductions s'appuient sur le texte des premières éditions des récits de Moses Roper, Londres 1837, et pour Hanson, c'est Boston 1849. Alors, dans les deux cas, donc, il s'agit de l'écriture de leur existence d'esclaves. Hein, ce sont donc, mais chacun des textes ont des formes différentes. Quelques précisions sur chacun de ces personnes. Le mot personne n'est pas utilisé au hasard, Claire Parfait, parce que cet ensemble esclave, c'est une façon donc de déshumaniser tous ces êtres humains. Josiah Hanson, donc né en 1789, de parents esclaves dans le Maryland, et c'est à 41 ans qu'il décide de fuir sa condition d'esclave avec sa famille. Tandis que Moses Roper, né vers 1837, on n'est pas sûr exactement de la date de naissance. Il est né donc en Caroline du Nord, son père est un maître blanc et sa mère est une esclave métisse. Donc contrairement à Hanson, Roper a la peau claire, ça, c'est important ça, cette distinction. Et donc lui, il fait des tentatives de fuite depuis très très tôt, hein, dès l'âge de 17 ans. Et c'est également, ce sont donc deux personnalités assez différentes. Moses Roper a un côté rebelle et radical, tandis que Hanson est un peu plus respectable. Donc vous avez expliqué donc qui étaient ces abolitionnistes. À un moment on lit dans page 37 du livre Claire Parfait, vous dites comme de nombreux autres esclaves fugitifs, Roper doit par ailleurs défendre l'authenticité de son récit. Qu'est-ce que ça veut dire? Auprès de qui doit-il défendre l'authenticité de son récit?
Il faut, pour expliquer ceci, revenir à un récit d'un certain James Williams, le même nom que l'apprenti des Caraïbes, mais un personnage différent, qui est publié en 1838 par l'association américaine contre l'esclavage, qui pense qu'il s'agit là d'un témoignage utile qui va vraiment susciter l'émotion et donc engager les gens à entrer dans le combat. Donc, ce texte est publié, il est dicté à un poète anti-esclavagiste. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'une partie des faits est erronée, exagérée, etc. Et là, ça pose un véritable problème, parce que pour être cru, pour être efficace, il faut que le témoignage de l'esclave soit authentifié. Alors, comment l'authentifier ? Lorsque on regarde les récits d'esclaves, pas tous, mais énormément d'entre eux, sont préfacés par des abolitionnistes blancs. Et quel est le rôle de ces abolitionnistes blancs ? Eh bien, leur rôle, c'est de dire « je connais cet homme » ou « je connais cette femme », »,« il est bien qui il prétend être » et « je garantis l'authenticité du récit ». Donc, le récit doit être cru pour être efficace. C'est pour ça aussi probablement qu'on trouve relativement peu de fiction par des Africains américains dans cette première période, dans ce premier 19e siècle, parce qu'il est extrêmement important que l'on puisse croire en l'authenticité du récit. Alors, pour Roper, c'est un pasteur britannique qui garantit l'authenticité du récit, qui lui a d'ailleurs été également certifié par un abolitionniste américain. Il y avait beaucoup de liens entre les abolitionnistes britanniques et américains. Donc, l'abolitionniste américain avait donné une lettre de recommandation pour l'abolitionniste anglais à Moses Roper. Il arrive à Londres avec cette lettre de recommandation qui est publiée dans les journaux. Et on va se servir de tout ça pour faire une préface qui va dire « Oui, Moses Roper est bien qui il est ». Le cas de Hanson est un peu différent. Hanson, donc, est illettré et il dicte son récit à un ancien maire de Boston, qui est aussi un lettré. C'est quelqu'un qui a été diplômé de Harvard et qui vient d'ailleurs d'écrire une histoire de Harvard qui a été publiée peu de temps avant qu'il commence à s'occuper de Hanson. Et mais il ne met pas son nom sur ce petit avertissement au lecteur, dans lequel il dit, cependant, qu'il a entendu l'histoire de la bouche de Hanson, qu'il a respecté absolument ce que Hanson lui a dit, et que chaque fois qu'il a terminé d'écrire un épisode, il le lui relit pour que Hanson puisse lui dire si c'est vrai ou pas. Donc, ça n'est pas une authentification absolue, mais c'est un essai d'authentification. Et je dois ajouter que le travail n'a pas été fait pour tous les récits d'esclaves parce que c'est extrêmement difficile, dans la plupart des cas, de retrouver des traces d'hommes qui, finalement, n'ont pas laissé d'archives. Donc, il y a tout de même une difficulté de ce côté-là. Dans la plupart des cas, on n'a pas de manuscrit. Il y a un manuscrit dans le cas de Hanson, ce qui est extrêmement rare. Mais dans tous les cas qui ont été étudiés, les historiens ont trouvé des preuves de la véracité des récits.
Cas parfait. Est-ce qu'il y a eu autant de personnes esclavisées, femmes, que d'hommes à écrire ou pas ?
Alors ça, c'est effectivement une question très intéressante. Et la réponse est non. Non, il y a beaucoup moins de récits de femmes esclaves. Il y en a quelques-uns qui sont très connus. Il y a un récit que nous avons inclus dans la collection, qui est le récit de Sojourner Truth, qui a été publié en 1850, qui a également été dicté. Un récit qui est très connu aussi, qui a été traduit dans une autre collection et auparavant en français, qui est le récit Les incidents dans la vie d'une femme esclave, d'une femme qui s'appelait Harriet Jacobs, mais qui avait écrit sous le nom de plume Linda Brent, et ça a été publié en 1861, si je me souviens bien. Alors pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes qui ont écrit leur récit ? C'est une très très vaste question, mais ce qu'on peut dire cependant, déjà, c'est que des chercheurs américains qui ont étudié les annonces d'esclaves fugitifs qui paraissaient dans les journaux. Sur une trentaine d'années, dans plusieurs États du Sud, on remarquait qu'il y avait infiniment plus d'annonces d'hommes en fuite que de femmes en fuite. Et ils ont calculé que, sur les annonces qu'ils ont étudiées, le pourcentage de femmes fugitives était à peu près 19%. Donc, de toute façon, on a déjà un pourcentage plus limité de femmes qui fuient. Et le pourcentage qu'on donne habituellement de femmes d'auteurs, autrices de récits d'esclaves, c'est 12% du total. Donc vous voyez, on se retrouve là aussi dans des chiffres beaucoup plus bas. Une partie de ces chiffres s'explique tout naturellement par le fait que c'était beaucoup plus difficile pour des femmes de fuir avec leurs enfants.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons vous réunissez ces deux récits qui sont relativement courts, bien sûr. C'est une partie de l'explication, vous me le disiez. Mais est-ce que vous pouvez nous préciser donc le projet qui consistait à rassembler les deux.
Alors, ces deux hommes, ces deux récits donc, sont assez courts, donc ça s'inscrivait bien dans notre projet éditorial. Et ce qui nous a particulièrement intéressés, c'est que ça permettait de donner aux lecteurs français une idée de l'esclavage, à la fois dans le sud profond, qui est celui du coton, du riz, de la canne à sucre, ça c'est le sud que connaît Moses Roper, et une idée de l'esclavage dans ce qu'on appelle le sud du nord, le sud septentrional, le Maryland, qui est le même état que Frederick Douglass, où l'esclavage est très différent. Dans ces états du Maryland, du Delaware, etc., c'était des états de production de coton. Le coton a épuisé les sols et les agriculteurs, les fermiers ont été obligés de se diversifier. Donc on voit par exemple que dans le cas de Hanson, la ferme sur laquelle il travaille produit des céréales, des produits laitiers. Il nous explique qu'il va vendre du beurre dans les marchés près de Washington. Donc c'est une agriculture beaucoup plus diversifiée qui ne nécessite pas un nombre d'esclaves aussi grand. Et d'ailleurs, la ferme de Hanson comprend à peu près une vingtaine d'esclaves. C'est beaucoup plus petit que les fermes, que les plantations du Sud, qui emploient énormément d'esclaves et où on voit bien, quand on lit l'ouvrage de Roper, on le voit aussi quand on lit ou quand on voit le film 12 ans d'esclavage, c'est un travail harassant dans les champs, presque du travail à la chaîne, littéralement, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un travail extrêmement différent, ce sont des conditions de vie très différentes. La grande peur des esclaves qui habitaient dans ce sud septentrional, c'était justement d'être vendus dans le sud profond. C'est d'ailleurs ce que craint Hanson quand il est emmené à la Nouvelle-Orléans pour être vendu, et qu'il voit des gens qu'il connaissait dans le Maryland et dont il voit bien qu'ils sont extrêmement maltraités. Donc ça nous permettait de montrer cette première différence-là. Et ensuite, vous l'avez rappelé, Hanson, il fuit alors qu'il est assez jeune et il commence à fuir finalement dès qu'il est adolescent. Donc toute sa vie, c'est une succession de fuites. Et sa vie, c'est également une succession de maîtres. Lorsqu'on lit l'ouvrage de Roper, qui passe son temps littéralement, d'abord qui manque mourir de la main de la femme de son maître. Parce que la femme de son maître, vous l'avez bien rappelé, donc Roper, c'est le fils d'une esclave, et de son maître. Et la femme de son maître envoie quelqu'un vérifier si l'enfant ressemble ou pas au père. Et malheureusement, il lui ressemble. Donc elle décide, elle arrive pour le tuer. Elle en est empêchée, mais donc il commence tout de même, c'est pas si évident que ça d'être un esclave à la peau blanche. Hein, ça le met en danger dès ses premiers jours. Et ensuite, il est très difficile à vendre, justement en raison de sa peau claire. Et il a un nombre de maîtres et de métiers absolument étonnant. Et tous ces termes qu'il utilise, il est échangé, il est vendu, etc., etc., ça rappelle à quel point l'esclavage, c'était vraiment une question de bien meuble. L'esclave, c'est un bien meuble, ce qu'on appelle chattel slavery. Il n'a aucun droit et on l'échange véritablement comme on ferait d'un bien meuble, d'une marchandise, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'était intéressant. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'était la différence de caractère entre les deux. Vous l'avez dit, Roper, c'est un rebelle né. Il ne cesse de se révolter. Et même s'il ne conceptualise pas son désir de liberté, il a un désir de liberté qui est véritablement viscéral. Donc, il cherche à s'échapper dès le départ. Le cas de Hanson, c'est assez différent. Parce que Hanson, c'est quelqu'un qui, lui aussi, a des expériences épouvantables, mais qui, très vite, devient responsable de la ferme. Le maître a un contre-maître blanc qui le vole. Hanson découvre la chose, expose le contremaître et finalement son maître le prend lui comme superviseur de tous les travaux de la ferme et l'envoie vendre les marchandises de la ferme. Son honnêteté ne fait aucun doute. Donc c'est quelqu'un qui est dès le départ très respectable, qui aussi se convertit assez rapidement au protestantisme. Enfin, il a une conversion dans ses sens un peu évangéliques du terme. Et même s'il convient qu'il améliore de temps en temps l'ordinaire des autres esclaves en tuant un mouton ou un cochon, alors là, il n'en a aucun remords, parce qu'il trouve que c'est tout à fait normal, il a une vie qui est sensiblement différente de celle de Roper. Il est beaucoup moins souvent battu, c'est vraiment pas du tout le même genre de vie. Et en fait, donc, il se marie, il a 4 enfants au moment où il fuit, et en réalité, Hanson, il pousse très loin la respectabilité et l'honnêteté, on pourrait dire, hein, parce qu'il est chargé à un moment d'emmener tous les esclaves depuis le Maryland jusqu'au Kentucky, autre état d'esclaves mais qui borde un état libre, parce que son maître a des dettes et les esclaves risquent d'être saisis. Donc pour éviter que les esclaves soient saisis, le maître envoie Hanson chez son frère dans le Kentucky avec tous les esclaves. Et au cours de ce voyage, Hanson traverse la ville de Cincinnati, qui est dans l'Ohio, en état libre. Et lorsqu'il traverse la ville, les Noirs libres, évidemment, lui disent « Mais arrête-toi là, fuis avec tes compagnons. Pourquoi est-ce que tu amènerais tout le monde dans le Kentucky? Ça n'a pas de sens. Pourquoi rester en esclavage ?» Et lui dit, pour le lecteur d'aujourd'hui, franchement, c'est assez difficile à saisir, lui dit « Non, j'ai promis à mon maître de les amener, j'ai toujours été honnête et je ne peux pas trahir ma parole. » Des années après, regardant en arrière ce qu'il a fait, il a des regrets, mais quelque part il s'absout en disant « Finalement, j'ai fait ce que je pensais être le mieux à l'époque. » Mais c'est tout de même un peu surprenant. Donc Hanson, lui, a un grand désir de liberté, mais pour lui, sa liberté, elle ne peut être que rachetée. Donc il pense racheter sa liberté. En fait, son maître le trompe en lui annonçant un prix et en fait en révélant un autre prix. Donc en fait, il ne peut pas racheter sa liberté. On essaye de le vendre parce que le maître a toujours des dettes. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de s'enfuir avec sa femme et ses 4 enfants. Ce qui est assez inhabituel et assez courageux. Même si, rappelons-le, il partait de beaucoup moins loin pour rejoindre le Canada que Roper qui partait du Sud profond. Les évasions du Sud profond sont plus rares. Et il semble que beaucoup des fugitifs du Sud profond soient plutôt allés vers le Mexique, qui avait aboli l'esclavage en 1829 et qui était beaucoup plus près, évidemment, que la Nouvelle-Angleterre ou le Canada.
On continue à parler donc de ces deux récits d'esclaves fugitifs avec vous, Claire Parfait, récit donc de Moses Roper et José Hanson, aux éditions Presse universitaire de Rouen et du Havre, après la musique.
Me know. I walk in the dream of a kid from the go. Some people say when we defeat the beast, then peace will glow. Lead them to the freedom when I lead them, yo, they grow. Big up hallelujah when I'm feeling low, low. It shall pass, there's a bigger photo. My cup overflow, I can't do it solo. When the revolution comes, it'll be beautiful. I serenade like a renegade, never been afraid of Virginia Woolf. I'm the black sheep, known on black streets, no dig. A beautiful Chicago kid that won't renege. I might zag-zig and life ad-lib to find my voice, good city mad kid. Under the fig tree, unafraid in a land where the most high becomes the wave.
Blessed from my head to the sole of my feet. The what I said, it ain't nothing out of reach. The what I said, I achieved. You want the word, let me preach. Ooh. I manifest everything that you see. Top of the chain from the streets of the street. Did what I said, I achieved. And like I said, it ain't nothing out of reach.
Elections, reflection, protests, marches, family came together like the Partridge. Ain't playing your game, I got my own cartridge. Only plan I do is with Lynn Nottage. I found solace sitting in my own cottage. There I had to acknowledge where I'm not polished. Juiced up by the queen of green goddess. The less I move, the more I know where God is. Times is hard, so I had to come the hardest. We gon' work it out, still pray for the jobless. Still be on cottage, still be on stony. When I'm at the crib, some say you still owe me. In some ways I do, to whom much is given. Much is required when you the true and living. Better fruit, don't eat the forbidden. Speaking to existence is how I make decisions.
Blessed from my head to the sole of my feet. The what I said, it ain't nothing out of reach. The what I said, I achieved. You want the word, let me preach. Ooh. I manifest everything that you see. Top of the chain from the streets of the street. Did what I said, I achieved.
shit, I'd rather be brothers. Trips to Tokyo with some Japanese lovers. Lost boy in this world full of hatred and greed. See a young nigga make it what they hating to see. Never complacent, I be on the chase for the
FM 93.1.
Vous êtes bien dans version originale sur Aligre FM. Je reçois Claire Parfait au sujet donc du livre de récits d'esclaves fugitifs, Moses Roper et Josiah Henson, publié aux éditions Presse universitaire de Rouen et du Havre, dans la collection Récits d'esclaves. Claire Parfait, la lecture donc de ce livre met bien sûr en évidence la cruauté, surtout dans le récit de Moses Roper, du traitement des esclaves. On le sait très vaguement, mais relire ça rappelle bien sûr cette déshumanisation, cette, comme vous dites, l'esclave n'est plus un homme ou une femme, c'est un bien meuble. Et on voit effectivement, là, vous le rappelez, on voit dans le texte, l'absence totale de droits des esclaves, en précisant que les lois du Sud ne laissent aucun espoir de recours en faveur de l'esclave. Même, ce qui m'a surpris moi, même des églises américaines soutiennent l'esclavage. On a toujours pensé, enfin j'ai toujours cru que l'espace religieux, le moment religieux, était le seul moment où l'esclave était considéré comme une personne. Mais en lisant ce texte, j'apprends que même certaines églises faisaient preuve du même regard, de cette même cruauté envers les esclaves. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement ?
Alors, il faut peut-être rappeler dès le départ, on le rappelle dans l'ouvrage, que la seule église qui ait condamné l'esclavage de manière très claire, dès le départ, enfin dès le départ assez vite, c'est les Quakers. Les Quakers condamnent l'esclavage de manière extrêmement ferme dès la fin du XVIIe siècle et après interdisent à leur congrégation de posséder des esclaves. Mais les autres églises américaines sont beaucoup plus tièdes, on va dire, sur le sujet. C'est-à-dire que, pour les congrégations principales, les baptistes et les méthodistes veulent bien avoir des esclaves, christianiser les esclaves, si vous voulez, mais très peu s'élèvent contre l'esclavage et les églises baptistes et méthodistes vont connaître des grands schismes à cause de cette question-là, et souvent il y aura une séparation entre baptistes du Nord, baptistes du Sud, ou méthodistes du Nord, méthodistes du Sud, c'est-à-dire que, en fait, il y a une église en particulier qui fait ça, qui se sépare complètement, c'est-à-dire que le Nord, évidemment, sera plus contre l'esclavage, le Sud, pro-esclavagiste, mais les églises ne vont pas, du Sud ne vont pas intervenir contre l'esclavage. Au contraire, c'est pour ça que dans beaucoup de récits d'esclaves, voire dans tous les récits d'esclaves, il y a à la fois un sens religieux très fort et une attaque systématique des églises américaines.
Et là, il y a une attaque directe.
Il y a une attaque, mais très violente. Il y a des passages où les esclaves décrivent des réunions de revivalistes, enfin des grandes assemblées religieuses, qui sont immédiatement suivies de ventes d'esclaves parce que, dit l'esclave, tout le monde était de très bonne humeur. Et donc, c'était un bon moment pour vendre des esclaves. Donc, il y a vraiment une critique de l'hypocrisie totale de la religion. Chez Brown, c'était très clair aussi. Chez Brown, ils font des grandes séances de prière dans la famille. On embauche un pasteur pour prêcher aux esclaves qui sont extrêmement embêtés parce que ça veut dire qu'ils ne peuvent plus disposer de leur dimanche. Voilà, donc c'est... Et ce que les pasteurs prêchaient aux esclaves, en principe, c'était les leçons qui disaient « Esclaves, obéissez à vos maîtres », etc., etc. Donc non, la position des églises, à part les Quakers, les églises sont extrêmement problématiques, vraiment très problématiques.
Il y a un aspect aussi important dans...
Ce qui n'empêche pas, par exemple, Henson d'être un pasteur méthodiste. C'est pas la même chose. Et Henson est aidé par un pasteur méthodiste blanc. Mais ça, ce sont des individus. Au niveau de l'Église, la dénomination est la même. Non, là, c'est vraiment, les Églises ne sont pas vraiment opposées à l'esclavage.
Et on constate que chacune de ces deux personnes a une destination différente. Roper donc quitte les États-Unis, va en Angleterre, tandis que Henson aboutit au Canada. Comment expliquer cette volonté? Comment a-t-il pu faire pour quitter les États-Unis, Roper? Pourquoi cette volonté de quitter cet État? Pourquoi aller en Europe?
Alors, Roper, il fait ce que des tas d'autres fugitifs font. Frédéric Douglas part aussi en Angleterre, au moment où il risque d'être rattrapé. Et c'est exactement ce que fait Roper, un petit peu avant. Roper arrive donc à New York et part à la campagne en espérant trouver du travail. Il n'arrive pas à trouver du travail. Donc il voyage enfin il devient steward sur des bateaux qui remontent les canaux en Nouvelle-Angleterre. Finalement, il revient à Boston, il trouve un emploi chez un ami, mais là aussi, on le prévient, attention, quelqu'un te cherche. Donc, il n'est pas en sécurité en Nouvelle-Angleterre. Et c'est un peu ce que dit aussi Hanson. Hanson se dit, dès le départ, je ne vais pas m'arrêter dans les États du Nord, parce que les États du Nord ne sont pas forcément bien disposés. Et il a raison. La Constitution, quand elle est écrite en 1787, elle comprend une clause sur les esclaves fugitifs. Cette clause est renforcée par une loi de 1793 qui permet aux maîtres d'aller dans les États libres chercher leurs esclaves. Alors ça va être bien pire en 1850 quand la loi sur les esclaves fugitifs obligera véritablement les gens du Nord à aider à capturer les esclaves fugitifs, sinon ils s'exposent à de lourdes amendes. Mais de toute façon, effectivement, les fugitifs ne sont pas vraiment en sécurité dans les États du Nord. Donc ils ont deux solutions. La solution la plus facile, on va dire, hein, du point de vue géographique, c'est de partir au Canada, où l'esclavage est aboli, puisque l'esclavage est aboli dans les colonies anglaises depuis 1834. Donc le Canada, c'est une... Et de toute façon, au Canada, l'esclavage a été aboli graduellement, même si ça n'a pas été dit, dès la fin du XVIIIe siècle. Donc, Hanson décide d'aller au Canada. Roper ira aussi au Canada, mais plus tard. Lui, il décide d'aller en Angleterre, probablement parce que... Alors, c'est pas le premier à y aller, mais probablement grâce aux liens qui existaient entre les mouvements anti-esclavagistes américains et britanniques. Donc, on lui donne des lettres de recommandation. Il est certainement fortement encouragé à aider par les abolitionnistes américains à partir en Angleterre, où, évidemment, il ne risquera rien, puisque... sur le sol anglais, depuis 1772, c'est impossible d'avoir un esclave. Donc, il ne risque rien en Angleterre.
Alors, il y a également ça. Je reviens sur c'est souillé dans le livre plusieurs fois, cette croyance selon laquelle les esclaves s'accommoderaient de leur condition. Oui. C'est affreux, ça. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que l'un des fondateurs des États-Unis, Thomas Jefferson, a évoqué le fait que dans son texte Note on the State of Virginia en 1785, que le fait par exemple de séparer une mère d'un enfant, de disperser les familles, finalement ça n'avait pas beaucoup de conséquences puisque ces personnes-là n'ont pas beaucoup de sensibilité, beaucoup de sentiments. On est surpris de constater que ça vient même de Thomas Jefferson.
Mais Jefferson, c'était quelqu'un qui avait des...
Et qui a pour fondement les Lumières, hein, faut bien le préciser.
Oui, et puis qui a tout de même rédigé en partie la Déclaration d'indépendance qui dit « Tous les hommes sont créés égaux ». C'est vrai que c'est très problématique, mais comme c'était aussi un esclavagiste, qui en même temps, c'était quelqu'un qui avait des vues extrêmement ambiguës sur la question, parce qu'il pensait profondément que les Noirs étaient inférieurs. Et il pensait effectivement, comme beaucoup de gens de son époque, que les Africains américains n'avaient pas des sentiments aussi profonds que les Blancs et que par conséquent, si on séparait les mères des enfants, ils en souffraient moins. Et c'était intéressant de voir que, outre la dénonciation des châtiments corporels, surtout chez Roper, mais aussi chez Hanson, une des dénonciations essentielles de l'esclavage, ça passe par ces séparations des familles à une époque où la famille était sacrée pour les Américains. Et on voit à quel point les mères souffrent de ces séparations. La mère de Hanson qui supplie la personne qui vient de l'acheter d'acheter aussi son bébé et qui se fait repousser violemment. La mère de Roper qui, quand elle le retrouve des années après lors d'une de ses fuites, est absolument extrêmement émue de le voir. Et après, Roper est recapturé. Donc c'est une souffrance épouvantable.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
les récits d'esclaves comprennent toujours ce genre de scène pour bien faire comprendre au lecteur que finalement, ses sentiments sont exactement les mêmes. Il y a une inévitable empathie du lecteur qui est appelée de cette manière-là. De cette manière-là, il y a aussi, on pourrait parler aussi de la question de l'exploitation sexuelle des femmes esclaves, qui est aussi une des façons de dénoncer l'esclavage et qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les ouvrages, qu'on retrouve évidemment dans le cas de Roper, qui est le fils de son maître, qu'on retrouve aussi chez Frederick Douglass, qui est aussi le fils d'un homme blanc et d'une esclave, dans le cas de William Wallace Brown, etc. Donc ça aussi, ça fait partie intégrante de la dénonciation.
Effectivement, il y a un passage très triste de Roper quand il dit finalement son échec, c'est que il est libre, mais il sait que quelque part sa mère ne l'est pas.
Oui.
Et c'est une presque une semi-liberté en quelque sorte, il le dit à un moment. Aujourd'hui, alors quel regard est-ce qu'on porte sur ces... Je veux parler plutôt du côté américain, clair, parfait. Est-ce que ces livres sont lus? Parce que dans ces textes-là, il y a une articulation entre un matériau historique, également un corpus littéraire. Comment est-ce que cette articulation se fait pour le lecteur américain, notamment, quand il lit ça?
Alors, d'abord, il faut souligner le fait que ces récits, un certain nombre des grands récits, sont maintenant complètement canoniques. Ils ont été publiés, par exemple, dans l'équivalent de notre Pléiade, qui est The Library of America. Ils sont étudiés comme des textes littéraires et ils sont aussi utilisés par des historiens. Pendant très très longtemps aux États-Unis, les historiens ont refusé d'utiliser ces textes comme source pour l'histoire de l'esclavage, pour une raison très très simple, c'est qu'on a écrit pendant très longtemps... jusqu'aux années 1950, en fait, on a réécrit l'esclavage comme système bienveillant. Évidemment, dans ce cas-là, lire le récit de Roper, par exemple, ça pose problème. Mmh. On voit absolument tout à fait que ça n'est pas un système bienveillant.
En effet, c'est le contraire.
Alors, évidemment, il y avait des historiens africains-américains qui disaient « Mais regardez les récits d'esclaves ». En 1935, dans un ouvrage qui s'appelle « Black Reconstruction », W.E.B. Du Bois écrit... assez du mythe de la plantation, etc., qui sera d'ailleurs incarné un an plus tard dans le bouquin, dans l'ouvrage « Autant en emporte le vent » de Margaret Mitchell. Et il dit « Tout ça, c'est du mythe », parce qu'il y avait toute une série de plantation novels, de romans de la plantation, qui montraient des esclaves heureux, satisfaits de leur sort, etc. Et lui dit « Mais non, regardez les récits d'esclaves. Le Sud, ça n'était pas du tout ce Sud raffiné, où tout le monde était heureux, où les esclaves étaient bien nourris, etc. Non, c'était ça la réalité de l'esclavage. » Et à partir des années 50, on a écrit l'esclavage différemment, mais on se méfiait tout de même encore des récits d'esclaves jusque dans les années 1970, donc c'est tout de même très tard. Quand un historien qui s'appelle John Blasingame a commencé à les utiliser avec beaucoup de précautions, parce qu'après tout, ce sont des récits de vie, mais ce sont des autobiographies et on sait bien les problèmes que pose l'autobiographie. On choisit toujours, c'est toujours une mise en scène. Donc lui a commencé à les utiliser et après ils sont devenus fortement utilisés. J'y reviendrai dans une minute. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on ne les a pas utilisés, outre la raison que je viens de donner, c'est tout simplement qu'ils avaient disparu. Ils prenaient la poussière sur quelques très rares institutions, dont la bibliothèque Schomburg à New York. Et ce sont des historiens africains-américains qui les ont redécouverts dans les années 1940, qui ont fait des thèses dessus et qui ont véritablement tiré ces ouvrages de l'obscurité. Ensuite, viennent les années 60, le combat pour les droits civiques, la création à la fin des années 60 de départements d'études africaines-américaines. Et là, ça devient vraiment des textes qu'on redécouvre. Et il y a une entreprise systématique de réédition de ces textes à partir de la fin des années 60. Et au jour d'aujourd'hui, on trouve les plus grands textes dans plusieurs éditions savantes. On les trouve en ligne aussi assez aisément. Il y a tout un site qui s'appelle « Documenting the American South » qui donne... les textes de 200 et quelques récits d'esclaves, dont maintenant ils sont d'ailleurs tellement bien intégrés que certains chercheurs américains ont dit maintenant le carcan du récit d'esclaves, ça suffit, allons chercher des récits qui soient moins médiés par des blancs et allons chercher des récits qui ne se finissent pas automatiquement bien, puisque le récit d'esclaves fugitif, typiquement, on part du sud de l'esclavage, on arrive au nord et à la liberté. Ce qui est un peu trompeur, parce que le nord, c'était peut-être la liberté, mais c'était aussi la ségrégation. Donc, c'est, voilà. Et donc, on a une série de chercheurs qui se sont intéressés à d'autres récits de vie. Par exemple, les annonces d'esclaves en fuite. Il y a un ouvrage de Jean-Pierre Le Glonec qui analyse d'autres récits de vie. C'est des récits de vie, ces petites annonces qui décrivent la façon dont finalement les corps sont marqués par l'esclavage, les cicatrices, etc., etc., qui racontent un peu, finalement, on arrive à deviner des choses de la vie des gens qui sont décrits dans ces annonces d'esclaves. Donc voilà, y a maintenant, on va dire, ils sont très, très bien intégrés. Et on revient un petit peu en arrière en disant il faudrait aller chercher d'autres choses. Moi, je pense que c'est vrai que ces récits ont été médiés par des Blancs qui posent les problèmes de toute autobiographie, que c'était des armes dans le combat contre l'esclavage. Mais ils sont extrêmement intéressants. On entend des voix individuelles et ils permettent, ils forment une sorte de grande mémoire collective de ce qu'a été ce système abominable.
Claire Parfait, vous évoquiez donc le département d'études africaines-américaines. Depuis donc l'arrivée de Trump à la présidence des États-Unis, l'idée même de vérité historique, de fait historique, est remise en cause. Craignez-vous des répercussions sur les études africaines-américaines ?
C'est malheureusement tout à fait possible. En 2019, le New York Times avait lancé un projet qui s'appelait le projet 1619. 1619, c'est la date où les premiers esclaves ont été vendus à Jamestown en Virginie. Et Trump avait répliqué, il était président à l'époque, c'était son premier mandat, il avait répliqué en disant « ça ne va pas du tout, je vais faire un projet 1776 ». 1776, c'est la date de la signature de la Déclaration d'indépendance. Ce qui est très bien aussi, évidemment, 1776. Mais vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je relisais récemment le discours qu'il avait prononcé à ce moment-là. Et ce discours disait très clairement qu'il fallait cesser de rendre les Américains honteux de leur passé, qu'il fallait célébrer l'unité de la nation et ses accomplissements. Et je ne sais pas si vous avez écouté son discours d'inauguration de janvier de cette année, dans lequel il dit... Étonnant, il dit « voilà tout ce que nous avons fait, entre autres nous avons aboli l'esclavage ». Et là on se dit « voyons, nous avons aboli l'esclavage ». C'est vraiment étonnant, parce que c'est pas « nous avons aboli l'esclavage », c'est « nous avons esclavisé des gens pendant plusieurs siècles ». Et ensuite nous leur avons fait subir la ségrégation, des lynchages, etc. Donc c'est une vision qui me paraît très inquiétante et Trump a donné des instructions par décret au Pentagone de supprimer de leurs archives tout ce qui comportait un certain nombre de termes. Vous avez peut-être entendu parler de l'absurdité totale, ça c'est vraiment la bêtise de la censure. L'Enola Gay, qui est le nom du bombardier qui a largué la première bombe nucléaire atomique donc sur Hiroshima, a été supprimé parce qu'il y avait le mot « gay » alors que c'était le nom de la mère du pilote, si je me souviens bien. Donc on va...
rapport.
Mais non, mais c'est la bêtise de la censure. Mais c'est très inquiétant parce que, par exemple, le cimetière d'Arlington, qui est le cimetière militaire près de Washington, a enlevé de la première page du site tout ce qui avait à voir avec les Africains-Américains enterrés à Arlington. Pourquoi est-ce que c'est un problème ? Parce que le reste de l'histoire, on la connaît bien. Les héros blancs américains qui ont perdu la vie dans diverses guerres. Mais l'histoire des héros noirs, on la connaît moins. Par exemple, les pilotes de Tuskegee, une escadre de pilotes noirs de la Seconde Guerre mondiale. On connaît beaucoup moins bien ces histoires-là, même si on les connaît mieux maintenant, grâce à tout le travail qui a été fait. Et donc là, finalement, on a l'impression que Trump veut remettre une couche d'ignorance sur tout ça, veut à nouveau cacher... Un peu comme à la fin du 19e siècle, où on disait bon, l'esclavage, c'était pas si terrible que ça, etc. Voilà, donc c'est extrêmement, extrêmement préoccupant ce qui se passe.
Et on peut même craindre une aggravation de la condition de vie des Noirs aux États-Unis.
Tout à fait. À propos de cette réécriture de l'histoire qui est en cours, les deux principales associations d'historiens américains viennent de lancer un grand appel en disant, une protestation en disant non, ça ne va pas du tout, on ne peut pas travailler comme ça, il faut... Mais finalement, ce que Trump fait avec l'histoire, c'est la même chose que ce qu'il fait avec la science. C'est-à-dire que ce qui est vérifié, vérifiable, mais contrariant, par exemple le changement climatique, on l'efface. Mmh. Voilà. Et effectivement, vous avez... Alors, après, c'est compliqué parce qu'il a parlé récemment de... faire un parc avec des statues des grands hommes américains. Il a beaucoup parlé, parce que c'était le mois de l'histoire noire en février, il a beaucoup parlé des héros noirs. Donc, il a aussi beaucoup courtisé le vote noir pendant sa campagne. Mmh. Donc, c'est difficile de savoir ce qui va se passer. Mais effectivement, tout ça n'est pas du tout bon signe, et pas seulement pour les Africains américains, mais pour toutes les minorités et de genre aussi.
Je vous remercie, Claire Parfait, d'avoir passé cette heure avec nous pour nous parler donc du tout dernier ouvrage paru dans la collection Récits d'esclaves, Moses Roper, José Hanson, deux récits d'esclaves fugitifs aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Alors c'est bien sûr votre travail, Claude Parfait, mais également le travail de Simone Chambon, dont nous saluons la mémoire, qui nous a quittés il y a quelques années.
Absolument, tout à fait.
Et celui de Michael Roy, c'est ça, exactement. Voilà, donc je renvoie nos auditeurs à ce livre de récits d'esclaves fugitifs, donc ceux de Roper et Hanson, aux éditions Presse universitaire de Rouen et du Havre, dans la collection Récits d'esclaves. J'ai pas eu le temps d'annoncer la musique que nous avons écoutée, donc c'est un morceau de Common, A Beautiful Chicago Kid. Merci à Armand Gury et à Kumba Falcroix qui étaient à la technique ce soir. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à même heure. En attendant, je vous laisse en compagnie de Dance Reggae Vibes. Passe un bon week-end et une bonne soirée à l'écoute d'Aligre FM. À samedi prochain, bonne semaine, au revoir.
Version originale, Patrick Léon Émile. Yeah. 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 Slash. Drugs got me waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on deck. Got to win the baby on my bitch's student loan check. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. Bet they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The invasive black American gangster send us the corner hugger. Seeing this nigga shining and annoying me like a motherfucker. This buster on me, now he act like he don't know me. 44, my closest homie, kill cocker. Roaches like Tony got Montana motors. You bought 100 different fluids, yo, I had to smoke it. Pupils dilated like silver dollars, now we loking. Call it devilish how I do biz. Fuck these niggas talking, I leave their thoughts on my shoestrings. What? Straight to FNH is what I'm holding. The buster that we know got 50 bowls, bust it open. We came banana up, divided up, now what's the quotient? I split with four niggas since I'm a go-getter. I think these suckers pussy, I'ma murk the whole litter. Told my girl to leave as soon as I hung up the phone with her. Man, I heard you robbed the robbers, look Freddy, a cold nigga. Got an ice maker for a heart, made nigga from the start. Life is like a movie, all I did was play my fucking part. Jeffing up the crack, the heroin, the weed, out of car. I call it Fast Freddy's, I should own a fucking restaurant. Cause back when I was 12, threw some bells on the scale and I got a pager. We broke them down and started selling nickels to the neighbors. Eventually the penitentiary gon' see me later. Kiss my mama, told her if I died and it was part of nature. What? Got the heart to die for something, flesh to flesh. The Lambo powder outside, it's a stretch. My bitch half Mexican, Afghan, I'm blessed. From living tough times with rough levers, a gorgeous watch. A team on a dreadful level, yo. Yeah, we still getting money right. Long as the sun come out, I hold these money tight. Getting fresh, just cooling my bitch on my dick. But boo, yo, you live with your moms, just get a grip. Clip in my pocket, a rocket. I think of the dips, I need jewels and gems with rough flicks. Vous écoutez Aligre FM 93.1.